Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 19, le feu. Raoul se pencha vers le corps qui semblait sans vie et il appuya sa main sur le cœur. Il battait faiblement. Cette minute suprême où l'âme, dépouillant son enveloppe terrestre, s'envole vers le ciel ou vers l'enfer, n'était pas encore arrivée. Le jeune homme s'agenouilla près de la fontaine, qui n'était qu'à quelques pas de là. Il puisa de l'eau dans ses deux mains, et il répandit cette eau sur le visage livide et sur le cou meurtri de la vieille femme. Tandis qu'il accomplissait cet acte de charité, deux coups de feu retentirent à une faible distance, et deux balles passèrent en sifflant à quelques lignes de la tempe de Raoul. Ce dernier tourna vivement la tête, et des flocons de fumée blanche montant dans l'atmosphère grise, derrière une muraille croulante située à une cinquantaine de pas sur la gauche, lui indiquèrent clairement l'endroit d'où l'on venait de tirer sur lui. C'étaient les deux gris qui cherchaient à venger la mort de leur camarade. Raoul se dirigea de leur côté, les vit fuyant à toute course sur le versant de la colline, et déchargea contre eux ses pistolets, mais de trop loin et sans les atteindre. Quand il revint auprès de la vieille Maggie, il la trouva non plus étendue, mais assise sur la terre durcie par la gelée. Elle avait complètement repris connaissance, grâce sans doute à l'eau froide dont il l'avait inondée. « Comment vous trouvez-vous maintenant, ma pauvre femme ?» lui demanda-t-il.
« Je me trouve aussi bien que possible, messire, » répondit-elle d'une voix que le commencement de strangulation qu'elle avait dû subir avait notablement enrouée.
Et elle ajouta avec une pureté de langage et un choix d'expression qui contrastait avec la sordide pauvreté de ses vêtements.
« Et je ne sais, messire, comment vous remercier de ce que vous venez de faire si généreusement, en risquant votre vie, pour sauver celle d'une misérable créature à laquelle vous ne pouviez vous intéresser, puisque vous ne la connaissiez même pas.
« Je n'ai fait que mon devoir, » répliqua Raoul, « en empêchant des misérables de commettre un assassinat. »
« Hélas, » murmura la vieille, « nous vivons dans un temps où bien peu de gens savent le sens du mot devoir. Heureux ceux qui ne l'ont pas oublié. Qu'aviez-vous donc fait à ces hommes, et pourquoi voulaient-ils donc vous tuer ?»«
Je ne leur avais rien fait, messire. Ils me tuaient sans raison. Pour le plaisir, disait-il, comme les enfants qui s'amusent à noyer un malheureux chien. Pourquoi vous appelait-il Maggie la sorcière ?»«
Parce que c'est un nom qu'on m'a donné dans le pays. »
« Et pourquoi vous a-t-on donné ce nom ?»«
Parce que je vis pauvre, seule et triste, et que la pauvreté, la solitude et la tristesse rendent suspects ceux qui sont sous le coup de ce triple malheur. »«
Puis-je quelque chose pour vous ?»«
Vous avez déjà fait beaucoup, messire, en me conservant une vie à laquelle j'ai la sotte faiblesse de tenir. Je ne sais pourquoi, car qu'est-ce que la vie sans affection ?»«
Maintenant, vous pouvez me rendre un service. Le dernier, le seul. »
« Lequel ?
Tendez-moi votre main, messire, car sans votre aide, je sens que je ne pourrais me relever. Cette chute m'a brisé. »
Raoul fit ce que lui demandait la vieille femme. Une fois debout, elle le regarda pour la première fois bien en face. Après une seconde d'examen, elle poussa une sorte d'exclamation, et elle recula d'un pas en faisant un geste d'étonnement.
« Que trouvez-vous donc de si étrange dans ma figure ? » demanda Raoul.
« Rien, messire, rien. Seulement, il m'avait semblé...
Mais non, c'est de la folie. Cette image me poursuit et je crois trouver partout une ressemblance qui n'existe pas. »«
De quelle ressemblance parlez-vous ? » s'écria le jeune homme, non sans un peu d'émotion.
« Mon visage vous a-t-il donc rappelé quelqu'un que vous avez connu ?»«
Oui, du moins je l'ai cru d'abord. Je me trompais. » »«
D'ailleurs, que signifierait une ressemblance ? « Celui de qui je me souviens est mort, et sa race est éteinte. » Raoul, convaincu que la vieille femme faisait allusion à Tristan de Champdivert, allait l'interroger de nouveau, mais elle ne lui en laissa pas le temps.
« Messire, dit-elle, votre costume ne m'apprend point à quel parti vous appartenez. Êtes-vous pour les Suédois et les Français, ou bien pour les Franc-Comtois ?»«
Je suis pour les Franc-Comtois, répondit Raoul, et je n'ai nulle raison de le cacher. »
« Mais pourquoi cette question ?»«
Parce que jusqu'à ce jour, honni, bafoué, persécuté par tous les partis, Suédois, Français et Montagnards, me semblaient tous des ennemis.
Vous êtes le seul homme qui, depuis tant d'années longues et douloureuses, m'ait donné une preuve d'intérêt. Je m'attache au parti qui est le vôtre, messire. Et ne souriez pas. La vieille Maggie, Maggie la sorcière, comme ils disent, sera peut-être un allié plus utile que vous ne le croyez maintenant. » Raoul évita de sourire, mais il se dit tout bas lui-même que la pauvre femme était folle. Au bout d'une seconde, elle ajouta « Je voudrais savoir votre nom, messire, pour ne l'oublier jamais et pour le répéter dans mes prières. » « Je m'appelle Raoul, » répondit le jeune homme. « Merci, » murmura la vieille femme. « Raoul, c'est un doux nom. Raoul, c'est un nom que j'aime. » Puis sans prononcer une parole de plus et sans attendre de nouvelles questions, Maggie, malgré son âge, malgré sa récente pendaison, malgré sa chute et son évanouissement, s'éloigna d'un pas rapide et qui semblait assuré. Raoul se disposait à rentrer dans la chaumière de pied de fer et à rejoindre Églantine, qui, debout derrière le vitrage de l'une des fenêtres et l'œil collé à l'ouverture ménagée par le jeune homme dans un carreau poudreux, n'avait pas perdu un seul détail des scènes qui précèdent, suivies par elle avec une anxiété fiévreuse. Déjà même, il avait fait quelques pas dans la direction de la porte quand un bruit soudain, apporté par le vent et venant du côté de la place Louis XI, le fit tressaillir, s'arrêter et prêter l'oreille. C'était le coup de pistolet du masque noir. À cette détonation, on s'en souvient, succéda presque immédiatement une décharge des Suédois et des Gris disséminés dans la foule, puis une formidable clameur. Les montagnards commençaient leur œuvre de destruction. Il n'était possible ni de se tromper, ni de se faire illusion sur la nature de ces bruits. Là-bas, il y avait bataille. Le fracas de la mousqueterie fit sur Raoul l'effet que la trompette produit, dit-on, sur le cheval de guerre. Le jeune homme oublia tout, sa promesse, la mission qu'il avait reçue, Églantine elle-même, pour ne plus penser qu'à une seule chose, c'est que ses amis couraient un danger et qu'il n'était pas là pour leur venir en aide. Il se mit à gravir en courant la rude montée de la Poya et il s'engagea dans le dédale de petites rues qui conduisaient à la place Louis XI. Mais il n'avait pas fait 50 pas dans ce labyrinthe qu'il s'égara complètement. Les maisons se ressemblaient toutes. Rien ne pouvait le guider. Et les fuyards qui le croisaient en courant avec une vitesse qui aiguillonnait l'épouvante et auquel il demandait son chemin, passaient sans lui répondre et sans doute ne l'entendaient pas. La mousqueterie, cependant, continuait à pétiller et Raoul, se heurtant à des cul-de-sac, se perdant dans des impasses, ne pouvant, malgré ses efforts, se rapprocher de ce bruit qui l'attirait, Raoul se sentait devenir fou. Enfin, au moment où il commençait à désespérer complètement d'arriver jamais, au moment où des cris tumultueux succédaient à un grand silence, qui lui-même avait succédé au tapage des tambours et au fracas de plusieurs décharges terribles, il vit tout à coup devant lui, au détour d'une rue, au-dessous d'un véritable dais de fumée, un large espace dans lequel s'agitait une mêlée confuse et sanglante. C'était la place Louis XI. En même temps, il entendit des voix qui hurlaient « À mort l'accusons ! À mort ! Suède et France !» et d'autres voix qui répondaient « À mort les Spinassous ! Saint-Claude et l'accusons !» Raoul s'élança au milieu des combattants des deux parties. Il bondit là où la mêlée était la plus épaisse, où le danger était le plus grand. Nous savons déjà qu'il arriva à temps pour sauver une seconde fois la vie du capitaine l'accusant. Après la victoire, ou plutôt après le triomphe de la place Louis XI, le capitaine Évarros, à la tête des montagnards, s'était jeté avec une ardeur farouche à la poursuite des vaincus. Nous croyons l'avoir déjà dit. Raoul les avait suivis. Le combat, ou plutôt le massacre, continuait dans la ville, dont on gardait les portes afin que nul ne pût s'échapper. Les Suédois, traqués comme des loups enragés par leurs terribles ennemis, cherchaient des lieux d'asile et n'en trouvaient pas. Vainement ils jetaient leurs armes, vainement ils se traînaient au seuil des maisons, en criant qu'ils se rendaient et en demandant quartier. Les montagnards et les habitants de la ville eux-mêmes avaient trop de haine au cœur, avaient à exercer de trop formidables représailles pour être accessibles à la compassion. Les Suédois vainqueurs égorgeaient sans pitié jusqu'aux vieillards, jusqu'aux femmes et jusqu'aux enfants. Par un terrible mais juste retour des choses de la guerre, on égorgeait sans pitié les Suédois vaincus. Un certain nombre d'entre eux parvinrent cependant à se réunir. Ils se frayèrent une route ensanglantée parmi les montagnards qui gardaient une des portes de la ville. Ils sortirent par cette trouée et gagnèrent la campagne, où l'accusant, qui ne voulait pas voir ses hommes se disséminer, donna l'ordre de ne point les poursuivre. Le comte de Guébriant et le masque noir avaient disparu, et personne ne pouvait dire de quel côté s'était dirigée leur fuite. Désormais, la ville de Saint-Claude était reconquise, l'ennemi chassé. Sans doute, sa tête tranchée ne repousserait pas de sitôt. Nacuzon et Varose donnaient leurs derniers ordres, et suivis de Raoul, se disposaient à revenir à la place Louis XI, où ils croyaient trouver encore le curé marquis. Mais voici que tout à coup, un bruit de fatal augure traversa les airs. Le guetteur, qui jour et nuit était placé en vigie dans le clocher de la cathédrale, éveillait les lugubres notes du tocsin. Et le tocsin est un oiseau de bronze qui ne s'envole d'un clocher que pour se poser sur un autre. Bientôt, toutes les églises de Saint-Claude répétèrent ce sinistre appel, cri d'alarme et gémissement à la fois. En même temps, des colonnes de fumée noire et épaisse surgirent aux quatre points cardinaux et enveloppèrent la ville comme dans un manteau de brouillard. Puis un immense cri, composé de 1000 cris, s'éleva de toutes parts, et ce cri répétait « Au feu ! Au feu ! Au feu !» L'incendie était un terrible et dernier souvenir que les Suédois laissaient à la malheureuse cité. Ils se vengeaient jusque dans leur défaite, et comme ils voulaient que cette suprême vengeance fût complète et formidable, ils avaient attaché la flamme aux quatre coins de Saint-Claude. Or, dans une ville où l'eau manquait, où les rues étaient très étroites, où les deux tiers des maisons étaient construites en bois, on comprend que toute résistance, toute lutte contre le fléau, ne pouvait présenter la plus légère chance de succès. Il fallait fuir si l'on aimait mieux s'ensevelir sous des ruines fumantes. Lacuzon et Varose ne pouvaient cacher leur découragement et leur désespoir. Un montagnard, dont les vêtements et les cheveux étaient en partie brûlés et dont la respiration entrecoupée attestait qu'il venait de faire une course longue et rapide, arriva auprès d'eux. « Capitaine ! » dit-il d'une voix haletante. « Le feu est partout ! Du côté de la basse ville, on ne peut plus passer dans les rues !» Puis se tournant vers le lieutenant qui se trouvait là, il ajouta « Je viens de la Poya. La maison du pied de fer flambe comme un fagot d'épines sèches !» Raoul et l'accusant se regardèrent en frémissant. « Églantine ! Où est Églantine ? » cria le capitaine en saisissant le bras du gentilhomme. « Nous la sauverons !» balbutia Raoul, dont le cœur cessait de battre. « Nous la sauverons !»« Ah, malheureux !» poursuivit l'accusant. « Malheureux ! Vous l'avez abandonnée ! Il fallait la sauver et me laisser mourir !» Puis il s'élança dans la direction de la Poya avec une incroyable rapidité. Raoul et quelques hommes le suivirent, mais distancés de bien loin par lui. Quand le capitaine arriva devant la demeure de pied de fer, après avoir traversé des rues dans lesquelles l'incendie grandissant entassait d'ardentes décombres, il se trouva face à face avec un spectacle effrayant. La chaumière, presque entièrement construite en bois, flamboyait comme un volcan. Les larges pierres plates qui formaient sa toiture, et qu'en Franche-Comté on appelle des laves, s'étaient écroulées dans l'intérieur. La charpente embrasée profilait sur la fumée noire sa silhouette incandescente. Des langues de feu jaillissaient à travers les fissures multipliées de la porte qui brûlait lentement. « Comment donc se fit-il que cette porte soit fermée ?» se demanda l'accusant avec stupeur. « Églantine a cependant dû fuir. Il est impossible qu'elle n'ait pas fui. » Et s'approchant de la porte, il la poussa du bout de son épée. Le bois carbonisé céda sous le choc de fer, mais la porte ne s'ouvrit point. L'accusant ne put contenir un cri d'horreur et d'effroi. Il venait de s'apercevoir qu'elle était clouée en dehors. Les deux grilles de l'Espinassou, après avoir inutilement tiré sur Raoul et l'avoir vu s'éloigner, avaient conçu cette idée infernale qu'il s'était empressé de mettre à exécution. D'un coup d'épaule, le capitaine fit voler en 1000 éclats le panneau crevassé et voulut se précipiter dans l'intérieur. Mais une nappe de flammes, jaillissant par la nouvelle issue qui venait de lui être offerte, le contraignit à reculer sous peine d'être tout à la fois étouffé et aveuglé. « Églantine ! Églantine ! Ma sœur bien-aimée » cria-t-il dans un accès de désespoir et presque de folie. « C'est donc vrai ? C'est donc bien vrai ? Tu es perdue ! Tu es morte ! Je ne te reverrai plus !» Une voix qui semblait sortir des profondeurs de la terre répondit « Je suis là, mon frère ! Me voici ! Je suis vivante ! Sauve-moi !» Dans le premier moment, en entendant cette voix souterraine qui répondait du milieu des flammes, l'accusant crut à un prodige. ou tout au moins à quelque surprise de ses sens, à quelque mensongère illusion. Mais il réfléchit bien vite qu'Églantine, en se voyant enveloppée par l'incendie, en trouvant la porte clouée en dehors, avait dû chercher un moyen de salut, et que le seul qui se fût offert à elle avait été de se réfugier dans la cave. Généralement, à cette époque, et souvent même encore aujourd'hui, dans les maisons pauvres de Franche-Comté, on descendait à la cave par une trappe pratiquée dans le plancher d'une des pièces du rez-de-chaussée, près de la porte d'entrée. Et lorsqu'on construisait les fondations, on avait soin de laisser une ouverture à la voûte sur laquelle reposait le plancher. La trappe s'ajustait à cette ouverture. Or, par un hasard presque miraculeux, le plafond de la toiture, en s'écroulant, n'avait pas condamné la trappe. Plusieurs poutrelles se croisant et s'enchevêtrant dans leur chute s'étaient réunies en une sorte de fragile échafaudage qui la protégeait encore, mais qui, tout flamboyant, menaçait de s'écrouler d'un instant à l'autre. Églantine, réfugiée dans cette cave dont l'atmosphère devenait étouffante, appelait à son aide. Mais comment la secourir? Comment pénétrer dans cette ardente fournaise? Comment traverser ces flammes et respirer cet air embrasé? Comment, enfin, si l'on parvenait jusqu'à la jeune fille, la soustraire à l'action dévorante du brasier qu'il faudrait traverser pour la ramener au dehors? Aucune réelle et sérieuse chance de salut ne se présentait, et cependant, chaque seconde en s'écoulant, rendait le péril plus imminent et la mort plus prochaine. Toutes les pensées que nous venons d'indiquer se succédèrent avec une électrique promptitude dans l'esprit du capitaine. Pour la seconde fois, la voix d'Églantine se fit entendre, et cette voix cria « Frère, j'étouffe! Frère, je meurs! Viens donc! Viens vite, sauve-moi !» L'accusant se meurtrissait le visage et s'arrachait les cheveux. Il cherchait. Soudain, son regard s'illumina. Une exclamation de triomphe s'échappa de son gosier contracté, et volontiers, il eût répété après Archimède « Eureka ! Eureka !» Il venait de trouver. Le médecin des pauvres, chapitre 20. Le toton. L'accusant déploya son manteau, qu'il avait roulé autour de son bras gauche pour en faire une sorte de bouclier. Il courut à la fontaine et il trempa dans l'eau le drap épais et lourd. En ce moment, Raoul arrivait avec Piédefer, Garbas et quelques montagnards. Il leur avait fallu franchir les débris enflammés d'un édifice qui s'était écroulé presque sur eux à l'entrée de la rue de la Poya, et les difficultés à peu près insurmontables de ce périlleux passage les avaient retardés. « Où est-elle ? » cria Raoul au capitaine. « Où est-elle ? » « Là !» répondit l'accusant en désignant du geste le foyer de l'incendie. Raoul s'élança. « Arrêtez-le ! » dit vivement l'accusant. « Il périrait sans la sauver !» Garbas et Piédefer saisirent le jeune homme par les deux bras et le continrent malgré sa résistance désespérée et malgré ses cris. « Laissez-moi ! » répétait-il avec rage. « Je veux au moins mourir avec elle !» L'un des montagnards avait un manteau. Le capitaine s'en saisit et le trempa dans la fontaine, comme il venait de faire du sien. Puis, s'enveloppant dans ce tissu dont l'eau ruisselait, s'en faisant un capuchon qui retombait sur son visage en lui permettant seulement de voir assez pour se diriger, et mettant sous son bras son propre manteau qu'il venait de mouiller une fois encore, il se dirigea vers la maison. Il se jeta hardiment dans les flammes en retenant son haleine. Il souleva la trappe et il disparut dans la cave au milieu des cris d'admiration et d'épouvante des spectateurs de cette scène héroïque et terrible. « Églantine, » dit-il en descendant rapidement les degrés. « Églantine, me voici. Églantine, ma sœur, où es-tu ? » La jeune fille ne répondit pas. Suffoquée par l'étouffante chaleur, asphyxiée par l'air qui se raréfiait de plus en plus et cessait d'être respirable, elle venait de s'évanouir et elle était tombée à la renverse sur le sol fumant. L'accusant, sans perdre un instant, la roula dans le second manteau comme on enveloppe un mort dans son suaire. Il gravit d'un seul bond les marches qu'il venait de descendre, et il se lança pour la seconde fois dans la fournaise qui grondait et sifflait autour de lui, comme le cratère du Vésuve ou de l'Etna. Au moment où il franchissait le seuil avec son précieux fardeau, et où il tombait presque étouffé dans les bras de Raoul, la charpente, restée debout jusque-là, s'abîma avec un fracas d'enfer et écrasa sous ses débris la trappe refermée. Si une seconde de moins se fût écoulée, la cave de la maison incendiée serait devenue le tombeau d'Églantine et du capitaine. « Oh, mon ami, mon frère !» balbutia Raoul d'une voix entrecoupée par de joyeux sanglots. « Je vous avais sauvé la vie, mais comme vous venez d'acquitter votre dette envers moi !» Et il serrait dans les siennes les mains de l'accusant, et il le pressait contre sa poitrine, et il l'embrassait avec une sorte de délire. Après ce premier moment d'indicible effusion, les deux jeunes gens écartèrent les plis du manteau protecteur et découvrirent le beau visage d'Églantine. La jeune fille était pâle, mais pas un de ses cheveux bruns n'avait été touché par les flammes. Une respiration égale et douce soulevait sa poitrine. On eût dit qu'elle était endormie. « Quelques gouttes d'eau dissiperont cet évanouissement, » dit le capitaine. « Puisez à la fontaine, Raoul, et baignez les tempes de notre cher enfant. » Raoul se disposait à employer ce moyen, dont l'efficacité n'était point douteuse, mais il en fut empêché par un nouvel incident. Un partisan des corps francs, qu'on eût dit soutenu par des ailes tant sa course était impétueuse, descendait la côte et se dirigeait vers l'endroit où se trouvaient nos personnages. Comme le soldat de Marathon, il semblait près de rendre son dernier souffle au moment où il s'arrêta devant l'accusant. Cependant, par un suprême effort, il prononça ces mots.
« Aux armes, capitaine, là-bas, sur la route de Longchaumois, les Suédois et les Gris sont ralliés. Ils marchent sur la ville, ils viennent. « Le colonel Varose m'envoie vers vous. Il vous attend. »«
Enfant, » dit vivement l'accusant, « vous entendez ? En avant, Saint-Claude et l'accusant !» Puis, se tournant vers Raoul, il ajouta, « Frère, vous comprenez bien cette fois que vous ne pouvez nous suivre. Reprenez Églantine dans vos bras. Descendez la Poya jusqu'au rempart. Vous trouverez une poterne que vous ouvrirez. Vous traverserez la Bienne à gué, en face de l'endroit où Garbas nous attendait cette nuit. » Vous gagnerez la lisière de la forêt qui couvre le versant de la montagne, et vous m'attendrez là, cachés tous deux dans le hallier, qui s'étend derrière le gigantesque sapin que vous voyez d'ici. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas ?
Oui, répondit Raoul.
Allez donc, et que Dieu et notre dame d'Eisindeln soient avec vous. Je vous reverrai bientôt, car j'en veux finir vite, avec ce ramassis d'aventuriers et de bandits. Le serpent rejoint ses tronçons et veut mordre encore. Nous écraserons la tête du serpent. Puis après avoir serré une dernière fois la main de Raoul, le capitaine s'éloigna avec ses montagnards et disparut à l'un des tournants du chemin. Le jeune homme, resté seul auprès d'Églantine, n'avait plus désormais qu'une pensée, s'éloigner de cette ville abandonnée de Dieu, sortir de cette cité qui semblait maudite et que depuis quelques heures, la guerre et l'incendie emplissaient de cadavres et de ruines. Il souleva sa fiancée, il la coucha en quelque sorte sur son bras gauche, de manière à ce que sa poitrine servît d'oreiller à la tête de la pauvre enfant, et il s'engagea dans cette rapide descente qui devait le conduire à la poterne. Il avait déjà fait quelques centaines de pas, il entrevoyait déjà le rempart au-dessous de lui. De l'autre côté du rempart, une prairie que la Bienne traversait, et plus loin, cette forêt qui lui promettait un asile sûr. Il allait passer devant une cabane isolée, bâtie avec de la boue et des branchages, et d'une si misérable apparence que les Suédois, selon toute vraisemblance, avaient pensé qu'elle ne valait pas la torche qui servirait à l'allumer. La porte de cette hutte s'ouvrit tout à coup, et deux hommes se campèrent en avant de Raoul avec l'intention manifeste de lui barrer le passage. Ces hommes, qu'il reconnut d'ailleurs à l'instant, étaient les compagnons du Gris tués par lui, une heure auparavant. « Ah ah !» fit l'un d'eux avec un profond et ironique salut et un ricanement sinistre. « Vous voilà donc, beau gentilhomme, défenseur de sorcières !»
« Ne vois-tu pas, reprit l'hôte, ne vois-tu pas qu'il porte la belle Maggie sur son bras et qu'il est en bonne fortune avec sa conquête, la conduisant sans doute au sabbat ?»«
Oh oh, en bonne fortune dans une ville qui flambe et où le diable fait des grillades avec des côtes de chrétiens. Tu Dieu, quel gaillard !»«
Le muguet est amoureux de Maggie, et le véritable amour ne recule devant rien. »«
Je crois qu'il ne fera pas mal s'il tient à sauver sa peau, d'emprunter à la sorcière le manche à balai qui lui sert de monture. »
Tandis que s'échangeaient entre les deux routiers les phrases qui précèdent, Raoul avait affermi sur son bras gauche Églantine, dont le manteau de l'accusant voilait toujours le visage, et de la main droite il avait tiré son épée.
« Faites-moi place, » dit-il ensuite froidement et d'une voix ferme.
« En vérité, mon noble seigneur, et si nous ne voulons pas ?
Tant pis pour vous, recommandez votre âme à Dieu dans ce cas, car vous allez mourir. »
« Oh oh ! Et qui nous tuera ?»«
Moi. »«
Venez-y donc, joli muguet. Allons, Limassou, à la besogne. »
L'un des gris s'avança alors sur Raoul en lui présentant la pointe de sa rapière. Le jeune homme se mit en garde, mais tandis qu'il croisait le fer, Limassou se jetait brusquement et lâchement derrière lui et lui assénait sur la tête un terrible coup d'épée. Raoul chancela, lâcha son arme, essaya de rester debout et de soutenir Églantine. Mais il lui sembla que la terre s'écroulait sous ses pieds, et il tomba comme un homme mort au milieu du chemin, entraînant avec lui son fardeau.
« Allons, allons !» fit Limassou. « Je crois que le coup était bien frappé. Qu'en dis-tu, Franck Atripa ?»«
Pas mal, pas mal. Le cul à son compte. Le crois-tu mort ?»«
Pardieu !
Si nous l'achevions, en lui mettant tout doucettement 6 pouces de fer dans le ventre. Qu'en penses-tu, Limassou ?»«
Franck Atripa, tu m'insultes. »
« Bah, en quoi donc ?»«
En parlant d'achever les gens que je tue.
Après moi, il n'y a plus rien à faire, c'est connu. »«
Eh mon Dieu, ne te fâche pas, je n'ai point voulu t'offenser. »«
À propos, as-tu de la corde sur toi ?»«
Toujours.
Pourquoi me demandes-tu cela ?»«
Parce que maintenant que l'amoureux de Maggie ne nous dérangera plus, et pour cause, rien ne nous empêche, si c'est notre plaisir, de reprendre la sorcière qui l'a dépendue. »«
Tiens, mais c'est une idée, cela. »
Tu as donc des idées, Franck Atripa ?
Eh bien, mon Dieu, oui, de temps en temps.
Justement, voilà un arbre tout près. Ce sera commode.
Ah ça, mais elle ne remue pas plus qu'une souche, la vieille Maggie. On dirait qu'elle est morte.
Pas possible.
Comment ? Nous serions volés à ce point ?
Voyons donc un peu son visage.
Limassou se pencha et écarta le manteau.
Oh 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 ! Cria-t-il sur 3 tons différents. Tandis que l'étonnement arrondissait ses yeux.
« Diable ! Diable ! » !»«
Eh bien quoi ? » demanda Franck Atripa. « Qu'y a-t-il ? » ?
Il y a que ce n'est pas la sorcière qui est là-dedans. »«
Bah, et qui donc ? » ?»«
Regarde !» Franck Atripa, qui s'était éloigné de quelques pas pour étudier l'arbre destiné à devenir un gibet, se rapprocha.
« Diable ! Diable ! » fit-il à son tour.
« Qu'en dis-tu ? »
Je dis que voici une fameuse aubaine, et que cette fille est la plus belle créature que j'ai jamais rencontrée.
La reconnais-tu ?
Ma foi, non, et cela par la bonne raison que je la vois pour la première fois de ma vie.
Eh bien, moi, je sais qui elle est.
Ah, tu sais ?
Oui, c'est la nièce du curé marquis.
La nièce d'un ennemi ? Bravo !
Reste à régler, dit Limassou après un silence. « Auquel de nous appartiendra la belle ?»«
Comment ?»
s'écria Franck Atripa.
« Mais cela ne fait pas question. »«
De quelle façon l'entends-tu ? » ?»«
J'ai des droits incontestables. »«
Toi ?»«
Moi, pardieu. »«
Je serais curieux de les connaître. »«
Est-ce que ce n'est pas moi qui ai attaqué le gentilhomme par devant ?»«
Oui, en ayant soin de te tenir hors de la portée de son épée. »« Il n'a pas même reçu de toi une égratignure. »
« Peut-être, mais enfin je le voyais face à face, tandis que toi tu le frappais par derrière. »«
Certes,
et si vigoureusement que je la battais du coup. J'ai tué le propriétaire de la jolie fille. La jolie fille est à moi, par droit de succession directe. Je le soutiens et je la réclame. »
Franck Atripa tordit sa moustache.
« On pourra te la disputer, » dit-il ensuite.
« Toi peut-être ?
Et pourquoi donc pas ?»
Eh bien, si tu la disputes, on la défendra. Voilà tout.
Une fois, 2 fois, 3 fois, veux-tu me céder la belle ?
Non, 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 de par tous les diables.
Alors, puisque tu refuses de me la donner, je vais la prendre.
Quand tu voudras.
Je veux tout de suite.
Et les 2 bons compagnons fondirent l'un sur l'autre la rapière au poing. Au bout de quelques passes, Limassou recula. Ficha son épée en terre par la pointe et se mit à rire à gorge déployée. Franck Atripa le regarda d'un air étonné.
« Qu'as-tu donc à rire ainsi ? » lui demanda-t-il.
« Je ris, » répliqua Limassou, « parce que nous sommes vraiment trop bêtes. Nous allons nous couper la gorge pour une fille, tandis que nous avons un moyen bien simple de nous accorder. »«
Un moyen ?
Lequel ?
Au lieu de nous battre, jouons ! Tu dois avoir des dés dans ta poche. »
« J'ai un toton, ce qui revient au même. »«
Mon moyen te va-t-il ? » ?»«
Mais je le crois bien qu'il me va. »«
Eh bien, entrons dans la hutte et portons-y notre enjeu. »
Les 2 routiers soulevèrent Églantine et franchirent la porte basse de la masure
dont nous avons dit un mot et dont l'unique pièce avait pour tout mobilier un grabat, une table boiteuse et deux escabelles. Ils placèrent la jeune fille sur le lit et ils s'assirent de façon à mettre la table entre eux.
« Comment jouons-nous ? » demanda Franck à Trépas en tirant un toton de sa poche.
« Au plus haut point, si tu veux. »
« Non, ça va trop vite. »
« Comment alors ?»«
En trois coups. Et à qui amènera le plus près de 24 ?»«
Soit. »
Franck à Trépas posa le toton sur la table. Il était en os à 8 faces et sur chaque face se trouvaient des points noirs, représentant des chiffres depuis 1 jusqu'à 8.
« Commence, » dit-il.
Limassou saisit le toton et le fit tourner. Il tourna longtemps et finit par s'abattre sur le côté.
« 8 !» cria Limassou.
Un dernier tressaillement agita le toton qui se souleva une fois encore et gagna une autre facette.
« 1 !» dit Franck à Trépas avec triomphe. « C'est 1 et non pas 8 !»
Limassou frappa du poing sur la table.
« À ton tour !» grommela-t-il ensuite d'un ton de mauvaise humeur.
Le toton tourna et tomba. Il amena 7.
« À moi !» murmura Limassou.
Puis après avoir joué,
« 8 ! J'ai 8 ! Ah, cette fois c'est bien 8 !»«
Oui, et ça ne te fait que 9 points, et j'ai 2 coups à jouer contre 1. Je parie qu'au premier coup j'amène plus de 3. »«
As-tu de l'argent ?»«
Quelques pistoles. »«
D'où viennent-elles ? » ?»«
De la poche d'un bon bourgeois de Saint-Claude. » »«
Il te les a laissés prendre ?»«
Oh, j'avais eu soin de le tuer un peu avant de les lui demander. » La chose est allée toute seule.
Tiens-tu le pari ?
Oui.
Combien ?
3 pistoles. Je mets au jeu.
Moi aussi. Voilà l'argent.
Franck à Trépas saisit le toton et lui donna une rapide impulsion.
2 !
Murmura-t-il au bout d'un instant.
Gagné ! S'écria Limassou en empochant les 3 pistoles. Voici le dernier coup, le coup décisif, car nous sommes 9 à 9.
Limassou joua. Il amena 5. Franck à Trépas n'eut que 3. Limassou avait gagné.
« À moi la fille !» dit-il en se levant joyeusement.
« À toi la mort !» répliqua Franck à Trépas en lui brûlant la cervelle presque à bout portant avec un pistolet qu'il venait tirer de sa ceinture.
« Ah, double brute !»
s'écria-t-il ensuite, après avoir fouillé les poches de Limassou et en avoir soigneusement extrait les pièces de monnaie qu'elles contenaient.
« Cette fille est la nièce du curé marquis, c'est-à-dire le plus précieux des otages. »
Tu le sais, et tu ne vois en elle qu'une maîtresse d'une heure.
Ah, triple niais, sot animal!
Mais cette capture, c'est une fortune, car le masque noir va me la payer au poids de l'or. Et avec de l'or, on ne manque ni de belles filles, ni de bon vin.
Après ce court monologue, Franck à Trépas chargea sur ses épaules Églantine, toujours évanouie.
Il sortit de la cahute, il s'engagea rapidement dans la descente de la Poya, et il gagna la poterne dont le capitaine avait parlé à Raoul.
Aussitôt qu'il eut disparu, une vieille femme abandonna les touffes de genêt dans lesquelles elle était blottie, derrière la masure que Franck à Trépas venait de quitter, et elle s'approcha du jeune baron de Champdivert, étendu au milieu du chemin et qui semblait mort. Cette femme était Maggie, la sorcière.